Bonjour, nous sommes sur Allegre FM 93.1 dans La vie est un roman. Et ce matin, nous avons le plaisir de recevoir des gens qui vont nous parler de choses qui sont rock, bande dessinée, post-punk, pré-punk, des classiques, des rééditions. Et la première chose dont nous allons parler est une grosse réédition Metal Hurlant, spécial rock, avec un entretien exclusif de Philippe Manœuvre. C'est Cécile Chabreau qui est là et qui s'en est occupée, qui va nous exposer ça. Ensuite, elle va nous parler d'une réédition de pionnières de bandes de filles qui dessinaient des bandes dessinées féministes dans les années 70, Anana. Et là aussi, on a hors série de Metal Hurlant sur le fanzine Anana, si c'était un fanzine. À toi, Cécile, pour Metal Hurlant.
Merci beaucoup. Bonjour, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, Metal Hurlant 8, c'est un numéro vintage. C'est le dernier numéro vintage que propose la relance Metal Hurlant. Je vais faire un petit retour en arrière pour expliquer ce qui se passe depuis la relance. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Metal, Metal, c'est un magazine qui est sorti en décembre 1974, donc on va dire 75, et qui a été créé par Moebius, Jean-Pierre Dionnet et Druyer. C'est le premier magazine français de bande dessinée de science-fiction. Donc c'était à l'époque, et ça l'est toujours, un ovni dans le paysage et de la bande dessinée et de la science-fiction française. Metal, ça a été au fil des numéros une déflagration à l'international qui a inspiré de très grands films qu'on connaît, même quand on n'est pas féru de science-fiction comme Blade Runner ou Alien. C'était plutôt le vivier d'une science-fiction nouvelle, provocatrice et underground. Alors pourquoi ? Bah parce que à l'époque, ça vient d'une volonté de Jean-Pierre Dionnet, plutôt qui, et puis Moebius et ses acolytes, qui ne retrouvaient pas la possibilité dans des magazines de bande dessinée comme Pilote, pour le voilà, ne citer qu'un, ne pouvaient pas s'exprimer comme ce qu'ils aimaient lire, c'est-à-dire du pulp, des nouvelles de science-fiction. Donc ils se sont dit, bah attends, nous on va faire notre propre magazine, et c'est comme ça qu'est né Les Humanoïdes Associés. Puis, à partir de là, Metal Hurlant, puisque culturellement, à l'époque, il fallait créer une maison d'édition pour pouvoir lancer son magazine. Donc, Metal, c'est de la science-fiction, c'est aussi tous les genres liés à l'imaginaire, donc la fantasy, le fantastique. C'est un magazine qui est exclusivement réservé aux adultes, en tout cas jusqu'à 1978, après le public s'élargit un petit peu. Et c'est né d'une ambition de ces auteurs qui cherchaient une maison capable de repousser les limites de l'imaginaire là où on ne pouvait pas l'exprimer ailleurs. Donc il fallait prendre à bras le corps la science-fiction et y intégrer tous les petits ingrédients qui plaisaient à ces auteurs-là. C'est un véritable laboratoire de création et ça l'est toujours. C'est ça qui est vraiment excitant quand on est éditrice dans ce magazine. Donc la relance est en 2021 puisque Metal s'est terminé après quelques années de bons et loyaux services. Toujours pareil, c'était une histoire culturelle. À l'époque, les magazines ont eu moins de succès que les livres de bande dessinée. Et donc, on a relancé le magazine en 2021. Pour pouvoir montrer ce qu'était Metal Hurlant, puisque à titre personnel, j'étais pas née quand Metal Hurlant est sorti, on voulait expliquer aux jeunes et puis à ceux qui étaient passés à côté ce qu'était Metal. Donc, en reprenant l'esprit, c'est-à-dire le laboratoire de création, la surprise, vraiment les portes ouvertes à l'imaginaire comme on n'osait jamais s'exprimer ailleurs. Et on a lancé un numéro de création suivi d'un numéro vintage, donc un numéro de création qui reprend les jeunes talents et les moins jeunes, des grands noms jusqu'à des parfaits inconnus, et les numéros de vintage qui sont des rééditions de morceaux choisis. À la barre, Jerry Frisson, notre rédacteur en chef. Bien entendu, Jean-Pierre Dionnet, notre ange tutélaire, qui est toujours là parmi nous et qui nous aide, nous soutient, nous donne confiance. Donc ça, c'est vraiment un trésor de l'avoir avec nous. Et sa bande de rédacteurs, donc, dont je fais partie, on est quatre éditeurs des Humanoïdes Associés. Donc le numéro 8, c'est le dernier vintage. Pourquoi le dernier? Parce que en relançant Metal Hurlant, on avait un challenge énorme, c'est-à-dire porter sur nos épaules la marque Metal Hurlant, puisque c'en est une, de renommée internationale. Et donc, pour plaire à tout le monde, on devait montrer ce dont étaient capables les auteurs encore aujourd'hui, mais aussi montrer ce qu'était l'esprit métal à l'époque. Donc, un sur deux, il fallait pouvoir plaire aux lecteurs, parce qu'on avait vraiment cette pression-là, de plaire aux lecteurs qui lisaient métal, et puis aussi faire découvrir métal à tout le monde, c'est-à-dire non pas jouer au professeur, mais transmettre cette idée de surprise, de liberté d'expression. Et le pari est gagné, je peux dire, puisqu'à chaque numéro, c'est vraiment un succès, ça l'est encore. On reçoit beaucoup de courriers de gens très, très, très contents, de premiers lecteurs qui retrouvent l'esprit et de ceux qui nous découvrent et qui aiment énormément ce qui est à l'intérieur de ce magazine.
Si on regarde la table des matières, c'est très impressionnant parce qu'on a un ensemble de noms propres absolument fabuleux au niveau de la bande dessinée et du rédactionnel. Je ne sais pas, on a Tardy, Moebius, Francis Mas, Franck Margerin, Jeannot, Yves Chaland, Serge Clair. On cherche plutôt les gens qui manquent. On est très, très impressionnés. Par le Schuiten, c'est vraiment très complet, très Chantal Montelier.
Oui, Chantal, donc une des premières femmes à quand même faire des planches formidables dans métal, parce qu'il y avait quand même peu de femmes autrices à l'époque. Il fallait quand même s'imposer dans ce milieu qui était au départ un milieu exclusivement masculin. Et c'est pour ça que je vous parlerai de Anana tout à l'heure, que nous avons tous suivi avec plaisir. Mais effectivement, on ne trouve que des grands noms. Pourquoi ? Mais je pense que justement, c'était l'appel de cette liberté et de vraiment ce moyen d'expression qu'on ne trouvait nulle part ailleurs, et en bande dessinée et en science-fiction. Donc on a un numéro 8 extrêmement riche en effet.
Et donc tu as une grosse interview de Philippe Manœuvre dedans.
Oui, tout à fait. Et c'est une interview que, à titre personnel, je trouve extrêmement émouvante, puisque jusque-là, on a forcément les échos des lecteurs, les échos de Jean-Pierre qui nous raconte sa vision de Metal Hurlant à l'époque. Mais Metal Hurlant, c'était pas que Jean-Pierre, c'était aussi ceux qui travaillaient à ses côtés. Et Manœuvre en fait partie. Jusque-là, il souhaitait rester discret sur cette aventure-là. Et là, il a accepté de répondre aux questions de Jerry. Donc, c'est vraiment Jerry Friesen qui va gérer jusque-là toute la partie vintage. Et c'est lui qui mène d'une main de maître, quitte à prendre des voitures de location. Enfin, je vous laisserai lire l'éditorial, c'est vraiment très drôle. Mais qui est allé voir Manœuvre et qui a fait une longue interview d'une dizaine de pages dans ce numéro 8.
Il y a Nicole Clavelot aussi dans les pionnières de femmes publiées.
Oui, absolument. Les Nicole Clavelot.
C'est les deux femmes du numéro, si je vois bien.
Oui, oui, absolument. Ouais. Oui, oui. C'était des femmes qui faisaient et de la bande dessinée et de l'illustration, qui s'exprimaient à travers le médium. Et puis, chacune avait toujours une vision à raconter. Et Metal a été un des premiers magazines à leur permettre de s'exprimer comme ça, vraiment, librement en tout cas.
Ben donc, ils étaient brimés par Goscinny à Pilote et ils se sont émancipés petit à petit.
Peut-être que c'est encore une fois une sorte de prise de risque, en tout cas je le sais, en tant qu'éditrice, quand on publie un livre qui, par exemple, est refusé dans toutes les autres maisons d'édition, on prend des risques en ayant confiance. Mais encore une fois, c'est parce qu'on a envie de rêver, et je pense que les histoires qu'on reçoit et qui nous font rêver, on a envie de les soutenir jusqu'au bout, hein, jusqu'à la librairie. Et Metal, c'était ça, c'est-à-dire qu'en fait, la machine à rêver, c'était vraiment la meilleure expression qu'on puisse trouver pour ce magazine. Ils voulaient s'exprimer et aller parfois dépasser tout ce qu'on avait vu en imaginaire jusque-là.
Il y a aussi une sortie de cette idée d'un public d'adolescents captifs. C'est vraiment pour les adultes. Enfin, on change de cible. Parlais marketing. Oui, oui. On change totalement de cible.
Oui, c'était parce qu'à l'époque, la bande dessinée, c'était un peu... un peu mauvaise presse finalement. On regardait ça quand on était un peu bénbené. C'était l'image qu'on avait de la bande dessinée. Sauf que non, au contraire, c'était vraiment des adultes qui s'exprimaient à travers ce médium. Et donc, c'était des propos d'adultes, des choses qui résonnaient avec l'actualité, avec la politique, avec les luttes. Voilà. Et donc, c'est aussi tout à fait extrêmement riche historiquement en métal. Ça raconte beaucoup de choses sur l'époque aussi.
Oui, c'est assez extraordinaire parce que moi qui suis né après-guerre, la bande dessinée était insultée comme les jeux vidéo aujourd'hui.
Oui, voilà, c'est ça. Ça
c'est très, très étrange. En plus, là, je parle de la bande dessinée belge, qui était hyper bien pensante.
Oui.
Et donc, ils jouaient avec des transgressions minimales et ils avaient quand même... ils avaient affaire à de fortes pressions sur les bords tout le temps, quoi.
Oui.
Et moi, j'aimais beaucoup Kebra. Toi, dans ces vieux, il y a des choses où tu as plus d'adhésion que d'autres. Tu es fan d'un certain nombre de dessinateurs, de scénaristes.
Oui, forcément que je suis un petit peu fan, parce que je ne suis pas là par hasard. Mais ce que j'ai découvert dans Metal, puisque voilà, encore une fois, je n'étais pas lectrice à l'époque parce que je n'étais pas née. J'ai découvert avec grand plaisir le travail de Chantal Montelier, par exemple, qui, elle, s'impose dans une ligne aussi extrêmement sociale, vraiment de lutte au-delà de la science-fiction. Et également le travail de Nicole Clavelou qui m'a vraiment émerveillée. Vraiment là, j'ai trouvé que je me suis dit, mais oui, ça c'est vraiment l'esprit métal aussi, ça fait rêver quoi.
Ah, c'est très bien dessiné et tout. Peut-être que tu veux nous parler de Anana.
Avec grand plaisir.
Alors, on ne sait rien sur Anana.
Alors, on ne sait rien parce que, oui, il n'est pas encore sorti, ce beau bébé qui s'appelle Anana. Donc, pour revenir un petit peu et faire le professeur d'histoire, c'est Anana. C'est donc le premier magazine français de bande dessinée, lancé et créé par des femmes, à destination des femmes, et comme j'aime ajouter, lu par tous, puisque nombre des lecteurs et assidus de Métal Hurlant ont lu à l'époque Anana. Aux commandes de ce Anana, Jeannick Guiret, qui était à l'époque la compagne de Jean-Pierre et qui voulait aussi s'exprimer. Et donc les garçons ont dit, les filles, allez-y, créez votre magazine de bande dessinée, on vous soutient. Donc Jeannick devient tout de suite directrice de publication. Elle est accompagnée par des rédactrices et aussi des rédacteurs qui à l'époque signeront sous des noms de femmes.
Ah, super.
Voilà. Et donc, la ligne éditoriale, c'est donner la voix à toutes ces femmes qui souhaitent s'exprimer et qui n'ont pas forcément l'occasion à travers la bande dessinée à l'époque. Donc ça, c'est 1976, à peine un an après le lancement de Métal Hurlant. Forcément, il fallait trouver quelque chose qui se démarque un petit peu de métal à l'époque. Donc, Anana va encore plus loin dans la provocation, dans la lutte, jusqu'à se faire totalement censurer en 78, après un numéro dédié à l'inceste. Ça, c'est tout le paradoxe d'une époque d'expérimentation et de lutte, qui donne à la fois des merveilles et puis qui va donner aussi parfois quelques horreurs. Et on ne pouvait pas... faire un métal vintage sur Anana, parce qu'en découvrant et redécouvrant les magazines, on s'est dit que c'était quand même sacrément courageux, culotté, extraordinairement riche aussi. Et j'insiste parce que le rédactionnel de l'époque est formidable. J'espère que tout le monde va être sensible à ça. Et on a décidé de faire un numéro hors série, donc le tout premier hors série. Donc, à la différence de Métal que vous pouvez retrouver en kiosque et en librairie, c'est-à-dire que si vous avez loupé un numéro de Métal, c'est pas grave, vous le demandez à votre libraire. Là, le hors-série sera disponible plus longtemps, un petit peu partout. Et donc, on a voulu rendre hommage à toutes ces femmes qui ont participé au Anana. Florence Sestac, Chantal Montelier, Cécilia Capuana, Nicole Clavelou, Agnès Varda, Trina Robbins, et j'en passe et des meilleurs. On a donc publié des planches qui sont parues dans les numéros des Anana Et au fur et à mesure que le numéro grossissait, on disait « mais c'est pas possible, c'est quand même quelque chose, donc on va aller contacter des autrices d'aujourd'hui et puis voir ce que ça leur fait, si elles ont connu ou pas ». Et donc on a eu de tout, des filles qui ont connu à l'époque, des filles qui n'avaient pas conscience qu'en 76, il y avait des femmes qui se battaient déjà dans la bande dessinée et qui avaient publié quelque chose. Et ça a donné ce hors-série dont je suis extrêmement fière aujourd'hui. On a demandé à des autrices connues aujourd'hui, donc de tous âges, de présenter les autrices d'hier qui ont participé à ce dont elles n'avaient pas conscience, en tout cas à l'époque, mais qu'une véritable révolution dans la bande dessinée française.
Je vois qu'il y avait Olivia Clavel dans oui. Anana. Bon, il y a des gens qui ne se sont pas arrêtés à ça, oui.
Oui, oui, tout à fait, on a des autrices...
Donc là, c'est Christelle Pécou, dont je ne sais pas qui c'est, qui a fait l'article sur... qui a fait un papier sur Olivia Clavel.
Oui, absolument. J'ai contacté j'ai contacté mes autres rédactrices et rédacteurs. On a contacté des autrices d'aujourd'hui. Christelle Pécou, elle est autrice de bande dessinée. Et elle a accepté avec grand plaisir, je crois que c'est la première d'ailleurs, et je la remercie beaucoup, qui a accepté de présenter le travail d'Olivia, donc en lisant le travail, en faisant un portrait écrit et un portrait dessiné. C'était un petit peu une sorte de rubrique qu'on a lancée comme ça, ça a bien pris aussi. On a également fait une table ronde avec Florence Sestac, Elisabeth Holville, Brouette Hurlante, j'ai aussi convié Pixel Vengeur, l'éditeur de la boîte à bulles Vincent Henry. Et est-ce que j'en ai oublié une autre? Je leur ai proposé de s'exprimer autour de Anana. Donc il y avait celles qui ont connu Anana parce que je leur ai envoyé le PDF, et puis celles, bien sûr, qui ont connu à l'époque et surtout qui ont participé, comme Florence Sestac.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Et donc là, je vois, ce sera un numéro de 77, le numéro 8 de Anana. Homosexualité, changer de sexe, voir notre dossier page 12, on est en 77 donc. Et en dessous, écrit en vert, transsexualité.
Oui, alors...
elles étaient vraiment à l'avant-garde.
Super à l'avant-garde, et puis d'ailleurs tellement à l'avant-garde que c'est le premier numéro pour lequel elles auront vraiment un sacré... Enfin, c'est Jean-Pierre qui a été convoqué pour tout vous dire.
Il est convoqué
Il est convoqué pour dire t'arrêtes un peu ça, c'est pas possible, ça va beaucoup trop loin. Donc il a eu déjà un premier avertissement, et puis le numéro d'après, ça sera carrément l'interdiction.
Ah oui. Oui, c'était comme ça, c'était difficile. Et donc, on est avant le sida, avant tout ça. Oui. On est une décennie avant. Et il y avait déjà une forte répression. Enfin, c'est encore là, ça affleure tout le temps, quoi.
Oui, oui, c'était... Il y a quelque part quelque chose qui dérangeait, parce que pour une fois, on donnait l'expression aux femmes, puisque là... On parle de choses un petit peu trash, mais il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi s'exprimer sur des sujets sur lesquels on n'entendait que les hommes parler. Le nazisme, c'est sûr qu'on n'avait jamais entendu les femmes s'exprimer à ce propos-là. Donc, il y avait quelque chose quand même qui dérangeait derrière. Il y avait des choses qui allaient trop loin, certes, mais il y avait aussi... les femmes, c'est bon, on vous a déjà vu, pas la peine de s'exprimer sur ces sujets-là.
Et donc, puisque j'ai parlé d'Olivia, il y a un côté pré-punk qui est dans le magazine.
Ah oui, pré-punk.
On sent que ça vient, là, que c'est mûr.
Ah oui, 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 oui. C'est très trash. Je vous invite à le lire, parce qu'il y a un côté vraiment qui va beaucoup plus loin que métal à l'époque. C'est-à-dire que les filles ne sont rien interdit du tout. Et ce qui est extraordinaire, c'est la représentation qu'elles font d'elles-mêmes à l'intérieur. C'est-à-dire que là, elles sont maîtres un petit peu de leur position, de leurs avis et c'est vraiment pareil, c'est un petit bijou d'histoire de la bande dessinée.
J'ai vu qu'il y avait une espèce de photoroman en noir et blanc, là.
Oui, on a le travail d'Agnès Varda.
Ah, c'est ça, travail d'Agnès Varda. Oui. L'une chante, l'autre pas, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Ouais.
Qui est d'ailleurs présentée par Carole Morel, une autrice d'aujourd'hui.
Et donc, tu sais comment Agnès Varda est venue là-dedans? Des velléités féministes?
Alors, à l'époque, ce n'était pas nécessairement un magazine féministe, c'est bien ça. C'est qu'en fait, c'était juste l'occasion...
Pour la provoque?
Non, c'était un moyen d'expression pour tout le monde. Et puis, comme chacun est un individu à part entière, il y avait de la provoque comme il y avait des choses beaucoup plus soft, finalement. Anana n'était pas quelque chose de nécessairement féministe. Ça le devient
c'était
maintenant.
Féminin.
Voilà, c'était féminin, c'était pour les femmes et toutes les femmes. Donc toutes les femmes s'expriment et toutes les femmes le lisent. Donc c'est aujourd'hui que ça devient forcément un modèle et un symbole féministe, parce qu'il en fallait du courage pour s'imposer à l'époque.
Et donc là, je pensais à autre chose là, pour le photoroman, c'est Bousset et Alto Bianchi. Almanac 1, là, tu vois,
oui,
ça,
oui.
C'est quoi, ça? Ça fait penser un peu à Akiri, c'est comme
oui.
Choron, la version Choron des femmes.
Oui, oui, j'ai découvert, parce qu'en souvent, il y avait les mêmes autrices qui s'exprimaient dans Metal et dans Anana. Et là, à ma connaissance, c'est la seule fois qu'on a ce roman photo autre. Ouais. Mais il y a des petits bijoux, donc on n'a pas pu tout mettre forcément parce que 9 numéros c'est énorme, mais j'espère que ce numéro va marcher, parce que pourquoi pas ensuite refaire un Anana derrière, ça serait avec
c'était
plaisir.
C'était un format standard à 4.
Oui, c'était exactement le même format que le Metal Hurlant de l'époque.
C'était imprimé, c'était fanzine ou ça faisait magazine?
Fanzine avec une couverture couleur, on va dire, parce qu'à l'intérieur c'est exclusivement du noir et blanc.
Oui. Et donc, quoi d'autre qui est Trina Robbins? C'est à l'international ou c'est
oui,
une Française?
Non, Trina Robbins, c'est une Américaine et qui a participé, en plus de Anana, à ce genre de magazine aux États-Unis. Donc, Anana, quand je dis que c'est le premier magazine français, parce que évidemment, ça existait déjà aux États-Unis. Jean-Pierre, quand il a lancé Metal, c'était aussi, bien évidemment, une envie de retrouver aussi un petit peu l'esprit qu'on trouvait dans les comics américains, c'est-à-dire les critiques de la société. Et donc Trina, c'était ça aussi, elle participait déjà à ça de son côté, et donc elle a plus qu'apporté au magazine aussi, avec sa vision d'américaine à l'époque. Voilà.
Elle est très présente là, je vois qu'elle est... Il y a beaucoup de pages qui lui sont consacrées.
Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pages sur Trina, Cecilia Capuana également. On a essayé de mettre un petit peu toutes, faire un catalogue de ces femmes dans Anana. Mais à l'époque, il y avait quand même peu d'autrices de bande dessinée aussi. Donc, c'était plutôt les mêmes qui revenaient sur chacun des numéros.
Bon, et quoi d'autre? Tu veux revenir à Metal Hurlant? Qu'est-ce que vous annoncez après? Qu'est-ce que toi tu bosses là?
Alors moi je bosse oui bien sur Metal.
Quelle sera la suite?
Alors Metal, donc à partir de ce numéro 8, on ne fait plus de numéro vintage, parce que voilà, on avait un pari, c'était plaire à tout le monde, et je peux dire que le pari est vraiment réussi aujourd'hui, et je remercie vraiment les lecteurs d'être aussi fidèles. Donc désormais, nous aurons un numéro de création à chaque fois, mais avec un petit cahier d'une trentaine de pages pour refaire aussi, bien sûr, découvrir le métal de l'époque en fonction des thèmes, puisque depuis la relance, nous lançons à chaque fois dans un magazine un thème. Donc c'est un thème qui va lancer une petite inspiration pour nos auteurs et aussi la partie rédactionnelle. Donc dès le numéro 9, qui sortira en fin novembre, vous aurez le thème de l'utopie. Et dès le numéro 10, un petit cahier vintage donc, dans chacun des numéros de création. Donc numéro 10 sur la mécanique du grain de sable, donc un numéro fantastique, qui consiste à raconter des petites failles du quotidien dont on est les seuls à être le témoin. Et puis numéro 11 sur le subaquatique et le 12, un numéro spécial Lovecraft. Voilà.
Je suis avec Marc Godin, dont on parlera de son sujet après, mais il veut intervenir maintenant.
Moi, je voulais parler un tout petit peu de métal. Contrairement à toi, moi, je suis né dans les années 60 et j'ai découvert métal quand il est sorti. J'étais ado et ce que je voulais juste dire, c'est que c'était un magazine. À l'époque, il n'y avait rien. En 69-70, les éditions Luc sortent Strange et Fantasque. Ce sont la diffusion de Spider-Man, les 4 Fantastiques, les BD Marvel, qui sont censurés à l'époque. Mais si t'es un môme dans les années 70, en Fantastique, il n'y a absolument rien. Il y a quelques BD de Druyer dans Pilote, mais sinon, il n'y a rien. Et quand arrive Metal, c'est juste un électrochoc. Moi, je me rappelle que j'étais ado, il y a plein d'ados qui achetaient, c'était pas seulement les adultes, mais quand on achetait ça, on n'avait jamais lu un truc pareil. Dans le même numéro, tu pouvais avoir Moebius, tu pouvais avoir Druyer, tu pouvais avoir Corben, il y avait Tardy, on n'avait jamais vu ça, c'était extraordinaire, c'était une révolution. Moi, j'ai pas connu de magazines plus enthousiasmants, plus qui t'explosent plus la tête que ça. Peut-être Starfix après pour le cinéma, mais moi ça a été un truc fondateur. Et ce qu'il y avait aussi d'extraordinaire, je trouve, dans Metal, c'est que ça t'ouvrait sur d'autres choses, quoi. Manœuvre qui était en prise sur la musique te parlait du punk, alors que tout ce qui était Best, Rock and Fall, etc., le punk pour eux, c'était, ils se bouchaient le nez, c'était pas possible. On te parlait de littérature avec Bukowski. Enfin, moi, ce sont des gens, Jean-Pierre Dionnet, enfin bon, c'était des gens extraordinaires qui te prenaient par la main, qui disaient, tiens, tu devrais regarder par là, il se passe des trucs. Et ils m'ont fait grandir, ils m'ont fait découvrir des choses que j'aurais jamais pu imaginer. On peut pas comprendre en 2023, parce qu'on a accès, avec nos téléphones, avec nos ordis, on a accès à tout. À l'époque, dans la France des années 70, Pompidou, on a accès à rien, il y a rien. Et t'as ces mecs qui ouvrent un monde, qui ouvrent une porte, et c'était extraordinaire, quoi. Moi, j'ai les, ce que je te disais tout à l'heure, j'ai les 100 premiers numéros que j'ai de métal que j'ai gardés. C'était un trésor, on n'avait rien. Et ces pages-là, tu les regardais, tu les feuilletais. Un numéro, ça te faisait des mois parce que c'était juste au milieu de nulle part. Et voilà, pour moi, c'est quelque chose de métal, voilà, c'est une partie de ma vie très importante, quoi. Et il y a plein de, je suis pas juste illuminé, je pense qu'il y a plein de gens, enfin, j'ai découvert Jodo avec métal, il y a plein de gens pour qui métal, ça a été constitutif, ça a été une étape importante dans leur vie. Ça m'a fait grandir, je dis Bukowski, ça m'a fait des années. Enfin, la musique, Manœuvre, tout ça, c'est Dionnet, tous les autres sont des héros pour moi, quoi. Ce sont des, enfin, c'est très important, métal, voilà.
Oui, je comprends, parce que c'est vraiment toujours le retour qu'on a de ces lecteurs de l'époque. Et ce qu'on voulait garder, c'est l'esprit subversif, forcément, underground, voilà, vraiment la machine à rêver, ça, c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. Maintenant, on est en 2023, en effet. Et tu sais, au départ, les projets que je recevais, je me disais, mais qu'est-ce que les gens sont tristes, c'est pas possible. Mais parce que métal, c'est ça, c'est l'esprit aussi d'une époque. Et là, ce qu'on reçoit, c'est des gens qui s'expriment et qui sont nés ben, en 83 peut-être, ou en 90, maintenant bientôt en 2000, et qui donnent leur vision de leur époque. Parce que métal, c'est pas que quelque chose de rock et d'underground, c'est quelque chose qui permet d'exprimer différents points de vue. Et ça, on essaie encore de garder cet esprit-là. C'est pour ça que c'est international, c'est pour ça qu'on publie des auteurs russes, américains, japonais, brésiliens. On laisse tout le monde s'exprimer pour donner et rendre compte du monde actuel. Ça, c'est très important que c'est une résonance aujourd'hui. Et que bah, les premiers lecteurs comprennent ça et retrouvent l'esprit un petit peu subversif parce que ça, forcément, ça l'est. Mais forcément, ça ne sera pas la même chose. Comme tu dis, tout le monde a accès à tout maintenant. Donc,
Mais il y a une dimension historique, oui. Nous, on avait Philippe Kadig, hein, ça nous structurait, Crump, Philippe Kadig, Ballard, Van Vogt. Et Metal va l'importer ici, va le rendre indigène. Hein. Et c'est vrai que au niveau de Kadik, quand les gens commençaient à me parler de Bukowski, ils avaient le même air de fan absolu et c'était indiscutable. Et j'ai acheté un Bukowski et c'était très très bien. Et ça marchait tout de suite, il y avait un vrai univers et c'est très rare en fait. Comme ça, des choses qui sont... Vas-y, vas-y.
Ouais, parce qu'en même temps, les gens de Metal sont très intelligents. Ils vont sortir des bouquins, donc des albums qui sont extraordinaires, que tu achètes tous les mois.
Tu as raison.
Et ils sortent aussi, Philippe Manœuvre va sortir une collection qui s'appelle Speed 17. Donc il sort, je vais pas me rappeler naturellement, mais il sort, c'est le premier, je pense que c'est le premier en France qui fait traduire Charles Bukowski. Il fait un livre sur les Pistols. Il fait un livre de Harlan Ellison. Enfin, Speed 17, il sort une collection de bouquins qui sont jamais traduits. Il y a Selby, le démon, enfin c'est extraordinaire, quoi. Et quand tu es dans Metal, tu as accès à ça. Une porte s'ouvre sur la culture américaine, sur ce qui se passe en musique, sur le cinéma. Ce qui est aussi marrant aussi, c'est que Metal donc, va transformer tous les gens qui vont lire Metal, et puis influencer, je pense que vous l'avez dit brièvement, mais ça influence le cinéma de science-fiction, quoi. Ridley Scott a toujours dit que sans métal, pas d'Alien, surtout pas Blade Runner. Et naturellement, sur Alien, il fait travailler Moebius sur les costumes. Enfin, c'est extraordinaire ce qui se passe. Je ne sais pas après quand ça décline au niveau de métal, mais les 5 premières années, ce qui se passe dans Métal Hurlant, ça change vraiment des tas de choses dans l'édition en France, et puis surtout dans le cœur des lecteurs, quoi.
Oui, tu as raison. Mais c'était pas seulement en France. C'est-à-dire qu'en fait, là où Métal a vraiment marqué quelque chose, c'est que Métal, c'est deux choses. C'est l'esprit de la franco-belge différente, en fait. On s'adresse, les adultes parlent aux adultes, finalement, et en 74. Donc, qu'est-ce qui se raconte à cette époque-là? Et puis, surtout, il y a aussi une vision donc, de l'auteur. C'est-à-dire que l'auteur s'exprime, donne son point de vue. Et ça fait que c'est tout nouveau. On n'a jamais vu ça. Donc, l'auteur s'exprime à travers le genre de l'imaginaire. Et donc, là, ça donne un truc, c'est un feu d'artifice. Et quand je parle de déflagration tout à l'heure, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ben, ça a fait des ricochets partout. Et l'international a dit, mais qu'est-ce que c'est que cet ovni-là? C'est dingue. Et tout le monde l'a lu, en fait.
C'est un aller-retour avec la Californie.
Absolument.
On avait vraiment envie de Californie. Un type comme Edgar Morin, c'est très étrange, mais il va en Californie, il revient, il est transformé, quoi. C'est... Il sort de son côté français coincé, provincial, enfin ça devient quelqu'un d'autre, quoi. Il fait un bouquin sur les stars. Et donc on avait le pop, hein, donc, mais là le pop était new-yorkais, quoi. Tandis que là c'est vraiment le côté Californie et ça retourne à Hollywood. Et je suis entièrement d'accord avec évidemment Blade Runner et puis Alien, ça crève les yeux.
Et ce qui est vraiment étonnant, parce que tout à l'heure je feuilletais le numéro 8, et donc il y avait des rééditions de choses comme Arzak, de Moebius. En BD, en littérature et en cinéma, je pense qu'il y a un seul vrai critère de jugement, c'est le temps. Et moi, je trouve vraiment que les BD de Moebius, les BD de Druyer, certaines de y a un Tardy aussi, je pense. Y a Bilal, il y a Exterminator 17. C'est hallucinant. Alors, c'est peut-être parce que j'ai lu ça quand j'étais môme, mais je trouve Arzak... Je trouve qu'il y a quelque chose qui fait que, on va pas dire des gros mots, mais c'est un chef-d'œuvre, quoi. Oui. C'est extraordinaire. Et pendant 5 ans, ils produisent des chefs-d'œuvre en série. Et j'ai pas d'autres exemples dans la BD. Et je suis vraiment très étonné par cette fabrique. Donc c'est la machine à rêve, mais aussi la fabrique à chefs-d'œuvre, quoi. Et c'est sans équivalent. Hein.
On va arrêter là. On va écouter un petit morceau de musique.
S'est envolé, traçant un arc dans la nuit, de la couleur des opiacés. Sous la voûte, je m'évanouis, j'extirpe ma tête hors de nos jeux dans lesquels je me crois mort. Je suis seul avec l'or de l'eau, sous la surface de l'aurore. Je quitte le va-et-vient. des âmes. De l'autre côté du plongeoir, au loin le reflet du vacarme d'une fête foraine, d'une fête foraine devenue noire. La fête noire, la fête noire, la fête noire, la fête noire. Le cercle céleste dessiné par les cris. Mes lunettes effilochent le spectre des fontaines. Les yeux collés au ciel, tous les visages brillent. Le plus beau des voyages, c'est la fête foraine. Le plus beau des voyages, c'est la fête foraine. Oh, la fête foraine.
Et donc nous sommes sur Aligre FM 93.1, dans La vie est un roman. Et avant de passer au deuxième sujet, j'en profite avant d'oublier pour remercier les techniciens derrière la vie, Enrico Mastro Giovanni et Kumba Falcast. Et donc maintenant nous allons parler d'un article que j'ai trouvé vraiment formidable, enfin c'est plus qu'un article, d'un historique de C'est arrivé près de chez vous, donc le film... très connu par ceux qui le connaissent, et c'est un papier de Marc Godin, c'est mieux qu'un papier, dans la revue Schnock qui est consacré, qui est le numéro 48, et qui est consacré à Karl Lagerfeld. Et donc, il y a une interview, il y a une histoire, il y a un gros travail de mise en forme d'un interview de tous les gens qui ont participé au film. Écoute Marc, je te laisse parler, raconte-nous tout.
Bah, l'idée de ce papier, c'est une histoire orale. Donc, on avait envie, depuis très longtemps, on tournait autour de Benoît Poulvorde, qui est quelqu'un de... Enfin, c'est pas évident de l'attraper, il va très vite. Et on avait envie de parler de cette arrivée près de chez vous. D'habitude, on parle plutôt des films des années 60, 70, peut-être 80. Et là, on arrive donc début 90. Et c'est arrivé de près de chez vous, pourquoi ? Parce que c'est un film culte, il y a plein de mômes qui connaissent pas, et puis surtout, pendant des années, parce que l'histoire de ce film, on va revenir tout à l'heure dessus, il y a quelqu'un qui meurt, et c'est une bande de copains qui fait le film, et après cette mort tragique, Benoît Poulvorde n'a plus jamais parlé de cette arrivée, il refusait complètement d'arriver sur ce sujet. Tu l'interviewais, il te parlait de tout ce que tu voulais, mais cette arrivée de chez vous, c'était très compliqué pour lui, c'était vraiment une blessure. Et cette année, en fait, ou l'année dernière, je ne sais plus, c'était, ouais non, je pense que c'est l'année dernière, c'était les 30 ans du film, Et Benoît a accepté à nouveau de parler. Il y a eu une espèce de convention, je crois, je ne sais plus si c'était à Liège ou à Bruxelles, où ils ont fait la fête pendant 3 jours. Et Benoît est venu avec André Bonzel, qui est un des participants du film. Et ils ont répondu au public. Enfin, il s'est passé quelque chose. Le film est ressorti en salle, avec un petit peu de succès. Et puis, on parle d'une édition restaurée, parce que c'est très difficile de le voir en DVD. Je crois qu'il n'y a pas de Blu-ray, il y a un vieux DVD. Et le film va ressortir. Je crois que c'est Studio Canal qui va le ressortir. Donc, on s'est dit que c'était le bon moment. Et au niveau de la forme, on avait envie, à Schnock, de faire quelque chose que moi j'aime beaucoup, c'est-à-dire une histoire orale. Ça veut dire que c'est pas un journaliste qui intervient, mais j'ai interviewé le maximum de gens qui avaient bossé sur le film, donc Benoît, mais aussi tous les techniciens, l'affichiste, tous ceux qui de près ou de loin avaient bossé. Les gens à Cannes, j'ai retrouvé des journalistes qui étaient là, l'attaché de presse, enfin voilà, essayer de prendre le film sur tous les angles, dire pourquoi ça a commencé, qu'est-ce qui s'est passé, le tournage, la sortie, les arnaques, le groupe qui explose. Enfin bon, comme une histoire d'un groupe de rock qui atteint le firmament et puis après qui chute. Il y avait vraiment une belle histoire à raconter. Et puis avant de faire ça, j'ai revu le film. J'ai retrouvé le DVD qu'on m'avait volé. J'ai retrouvé dans une médiathèque. Et j'ai été abasourdi parce que c'est comme pour Metal, il y a des moments où t'as des choses qui tiennent pas le coup. Au bout de 5 ans, 10 ans, tu peux plus le regarder, c'est juste ridicule. Et sur les films comiques, c'est très dur. Quelque chose qui te fait rire 30 ans plus tard, est-ce que ça te fait rire encore? La plupart du temps, c'est non. Et là, moi, j'ai revu C'est arrivé près de chez vous avant de me lancer, et j'ai trouvé que le film était incroyablement moderne, hyper méchant, hyper drôle, et je me suis dit, ok, on y va, quoi, voilà.
Peut-être qu'il faut que tu dises qu'il est en noir et blanc, décrire l'objet, il s'est inspiré d'une bande dessinée, puisqu'on a parlé.
Alors, l'objet est très atypique. Alors, au départ, c'est un film de fin d'études pour des étudiants de cinéma, ça se passe en Belgique, des jeunes garçons d'à peu près 24 jusqu'à 27 ans à peu près, qui doivent faire un objet de fin d'études. Et ils n'ont pas d'argent, mais ils ont des idées. Et ils se disent, qu'est-ce qu'on peut faire? Et dans une idée économique, ils se disent, on va faire un faux reportage, un faux doc. À l'époque, il y a l'émission qui existait pendant des années, je pense que ça n'existe plus, qui s'appelait Striptease.
Qui était une série de chefs-d'œuvre dans le genre.
Ils s'inspirent de ça, donc ils allaient voir un garagiste ou je ne sais plus, quoi que ce soit. Donc c'était vraiment une émission poil à gratter, mais c'était, il y a des numéros qui étaient assez extraordinaires. Donc ils prennent la forme du doc. Donc l'idée, le concept du film, c'est une équipe de film va suivre, faire de la télé-réalité avant l'heure, va suivre un tueur en série qui raconte face caméra ses états d'âme. Et le tueur en série, c'est Benoît Poulvorde. Noir et blanc, caméra portée, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce film n'est pas du tout improvisé. Ils ont l'équipe technique, ils ont pas du tout d'argent, mais ils ont le matériel de l'école, donc ils peuvent faire une très belle image noir et blanc. Et en fait, ils s'aperçoivent que l'expérience est très intéressante. Et en fait, le moyen ou le court métrage qu'ils avaient fait pour l'étude, pour le film de fin d'étude à l'école, ils vont en faire un long. Voilà. Et c'est arrivé près de chez vous.
Benoît Poulvorde n'est pas acteur, il n'a strictement rien à voir avec le métier d'acteur, il veut devenir dessinateur de bande dessinée.
Dessinateur de bande dessinée, comme tu disais il y a 5 minutes, en fait, Torpedo, c'est au centre du truc, c'est une BD espagnole. Benoît est fou de BD, il veut devenir dessinateur, il dessine, il paraît qu'il a un coup de crayon pas possible. Le réalisateur du film s'appelle Rémi Bellevaux, lui aussi est dessinateur, donc là on est encore dans l'univers métal. Mais ce sont deux fous de BD, deux fous de Torpedo, et donc l'idée aussi de suivre un tueur à gages, ça vient de Torpedo.
Et donc, on voit la maman de Benoît, par exemple, dans le film. tout est assez hallucinant et il l'assassine. Elle est cardiaque, il lui fait peur et elle meurt.
En fait, l'idée du film, c'est que donc une caméra avec une équipe technique de la télévision qui suit dans ses œuvres un tueur à gages, un serial killer. Et donc, Benoît Poulvorde, oui, c'est exactement ce que tu me disais tout à l'heure, Benoît Poulvorde n'est jamais passé devant une caméra. Il a fait avec la bande un petit court-métrage, juste avant, qui s'appelait Pas de C4 pour Daniel, si je me rappelle bien. Jamais pris un cours de comédie. Et en fait, les potes de l'INSAS, donc de cette école de cinéma, sont toujours en train de traîner ensemble. Et ils ont un copain qui fait de la BD, qui fait des études de dessin, qui est Benoît Poulvorde, qui vient toujours les voir et qui fait... c'est ce pote qui fait toujours rire, qui fait n'importe quoi. Donc, tous ceux que j'ai interviewés me racontaient que Benoît, à 24 ou 25 ans, il est comme il est à l'écran, à savoir, il se met dans les carrefours, il fait la circulation, enfin, il met le soupe, il est incontrôlable, c'est vraiment Benoît Poulvorde, quoi, comme quand tu le vois sur les plateaux de télé. Et en fait, il lui demande de jouer dans leur premier court-métrage, il fait, bon, ouais, pourquoi pas, donc c'est pour faire les conneries qu'il fait dans la rue, il le refait à l'écran. Et pour le film, donc il y a un long métrage, et moi je lui demandais, mais Benoît, vous n'étiez pas impressionné, quoi, parce qu'il y a un film, il faut le tenir. Il fait, bah non, de toute façon, il n'y a personne d'autre qui voulait le faire. Et en fait, ce qui est important et intéressant dans cette histoire, c'est que les mecs pensaient que, bon, bah voilà, ils faisaient un petit truc comme ça entre eux. Est-ce que ça sortirait? Ils n'étaient même pas sûrs. C'est vraiment un truc pour se marrer, quoi. Et Benoît va se révéler un tempérament extraordinaire, quoi. Ce qu'il fait devant l'écran, sur l'écran, devant les autres sont morts de rire. Et alors, je leur ai demandé, et un des mecs qui s'appelle Vincent Tavier, qui avait ressorti le scénario, me disait que, en fait, comme ils avaient un budget très très limité, ils ne pouvaient pas se permettre de... et puis, surtout à l'époque, il n'y a pas de numérique, on travaille avec de la vraie pellicule, je crois que c'est du Super 16, un truc comme ça, mais ça coûte quand même de l'argent pour des... Le film a coûté l'équivalent, je ne sais plus s'il m'a dit, 12 000 euros, un truc comme ça, enfin bon, ça n'existe pas, mais ils ne pouvaient pas le laisser, ils ne pouvaient pas laisser Benoît délirer, donc tout était écrit, il y a très très peu d'impro. Et alors, ce qui est marrant aussi, c'est que comme personne ne veut travailler avec eux, ils font travailler la famille de tout le monde. Donc Benoît envoie son père, envoie sa mère. La plupart des techniciens, il y a les parents, il y a les potes qui passent. Les techniciens qu'on voit à l'écran, parfois ils font une silhouette de dos. Je sais que l'affichiste du film se fait tuer. Enfin bon, bref, tous les copains passent, tout le monde est à l'écran. Et ils se débrouillent comme ça, quoi. Et ils se retrouvent. Le film est tourné sur un an, sur une période de... sur trois séances, et il y a en tout cas sur sept semaines à peu près, quoi.
Là, vous écoutez Aligre FM 93.1.
Là, il y a une femme qui va être... ils ont besoin d'une femme nue, donc c'est un personnage. Donc chaque fois, on va voir le fait divers le plus connu de l'époque qui aura droit à une petite scène au bar. Et puis la femme qui va être nue, qui va être éviscérée avec de la viande de boucherie sur le ventre, etc., est aussi un personnage. Et tout ça est dans ton compte-rendu, dans ton historique. Et M. Manhattan, après, avec Poulvorde aussi, est très très bien raconté. Pas de position assise. De Greffe très généreux avec lui. Donc son producteur à Canal+, très généreux.
Ce qui est marrant, alors on a deux choses. On a un papier sur cette arrivée. Puis après, il y a une petite interview de Benoît où il parle des années Canal, de M. Manhattan, de Greffe. Et ça, c'est pas mal. Mais sinon, il y a une scène qui est quand même extraordinaire. On en parlait tout à l'heure avant l'émission, qui est toujours aussi... insoutenable et qui fait basculer le film, c'est la scène du viol. Et donc ils avaient besoin, donc à un moment l'équipe technique suit le tueur, donc Benoît Poulvorde, et qui arrive chez quelqu'un, et il va et ce qui est drôle, c'est que pendant tout le film il tue des gens, mais il tue un môme, même un moment, mais on est toujours avec lui, on se marre comme l'équipe, on le suit, c'est très marrant. Et à un moment il rentre chez une femme et il va la violer. Et là, ce qui se passe, c'est que c'est la scène pivot du film, c'est la scène où il y a en salle, moi je l'ai vu à l'époque, les gens sortent, et dans la presse, le film va être vachement attaqué à cause de ça, alors que le film te dit, hey, regarde, depuis le début, t'es en train de regarder un mec qui tue des gens, qui tue des enfants, et qui tue des noirs, qui tue des pauvres, qui tue des riches, et tu te marres, et là, tu peux plus. Donc, c'est vraiment une scène où tout bascule. Ce qui est intéressant aussi, pour l'anecdote, c'est que cette femme, ils avaient un mal de chien. D'abord, un, pour trouver des gens qui bossent avec eux, bah, quasiment gratos. Et là, quelqu'un qui accepte de se mettre, qui a pas de rôle, pas de texte, machin, qui tourne à poil, c'était pas évident. Donc, ils avaient quelqu'un.
La viande, du sang sur elle, c'est pas facile.
Donc, ils avaient trouvé quelqu'un qui était dans le milieu échangiste, et comment Benoît, et puis les techniciens, enfin, Bonzel, les autres, ont plein d'anecdotes qui sont vraiment très drôles sur le tournage de cette scène qui est vraiment. Et moi, je l'ai revue il y a pas si longtemps. La scène est toujours aussi, toujours limite, quoi. Tu dis, mais attends, qu'est-ce que je regarde? C'est pas anneux, mais tu dis, mince, qu'est-ce que je suis en train de regarder, là.
Cécile, toi, tu l'as vu, le film, alors, bah, qu'est-ce que tu en dis?
Oui, moi, je l'ai découvert ado, je pense, je sais pas, vers 16-17 ans, quelque chose comme ça. Alors, forcément, quand on découvre un film comme ça, avec des copains, des copines, ça ricane, mais je me souviens de la violence, principalement, mais d'avoir ri, aussi. Et j'en parlais tout à l'heure, ce qui m'a vraiment marqué, et maintenant je comprends mieux si tu me dis que ce sont des passionnés de bande dessinée, c'est vraiment la forme esthétique du film. D'abord un noir et blanc absolument prodigieux que j'ai vu rarement en fait, avec des vrais noirs, des vrais blancs, et vraiment un jeu de lumière incroyable, et des plans que j'ai pas vu souvent, des gros plans, on rentre vraiment dans l'intimité stricte du tueur. C'est pour ça qu'en fait on est si proche de lui que on est obligé d'assumer en fait en quelque sorte ce qu'il fait au départ. Et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. J'ai dû le revoir après et plutôt rire des blagues qu'on peut se faire après entre potes, parce que forcément ça reste, c'est ces phrases quoi qui restent en tête. Mais c'est vrai que c'est un film quand même peu commun, et je comprends que ça reste un film essentiel à voir aussi, parce que on n'en voyait pas non plus dans. On parle de métal tout à l'heure, mais ce genre de film, c'est assez rare dans le paysage du cinéma.
Ben, il finit à Cannes et ça change la vie des gens, pour le meilleur et pour le pire, malheureusement.
Absolument. Le film est présenté à Cannes, il est à la semaine de la critique, et donc toute la bande de Belges fous décide d'aller à Cannes, donc ils y vont dans des voitures. Ils n'ont pas une thune, hein. Ils vont dans des voitures plus ou moins usagées. Je pense que Benoît a dit qu'il a fait le Bruxelles, Cannes en troisième, tellement la voiture était usagée. Et puis l'idée, c'est d'aller là-bas et puis de picoler un maximum, de se faire inviter dans des soirées et puis manger et boire gratuitement. C'est vraiment ce qu'ils ont. Et en fait, il y a eu une projection déjà pour la critique à Paris, comme ça se fait souvent. Le film a déjà un buzz. Et ce qui se passe, c'est que quand le film est présenté à Cannes, la salle est pleine. Plusieurs témoins me parlent de bagarre pour entrer, vraiment. Et naturellement, il y a des pour, il y a des contre, ça s'empoigne. Et plusieurs critiques, je jure que c'est un très grand film. Il y a vraiment des gens qui vont supporter le film, qui vont être à fond pour. À Cannes, je pense que l'équipe n'arrête pas de picoler. Benoît est dans un état pas possible. Il rencontre la secrétaire de la semaine de la critique qui va épouser après. Donc il est fou amoureux et il passe Cannes avec elle. Il raconte n'importe quoi aux journalistes en disant que les droits ont été rachetés, Robert De Niro va faire la version américaine, n'importe quoi. Il s'invente sur le dossier de presse de l'époque, comme il n'a jamais rien fait. Il donne des titres de films qui n'existent pas. Enfin, c'est vraiment... voilà. Donc, à Cannes, c'est en même temps la gloire. Comment il s'appelle? Benoît dit qu'il est né là-bas. Et en même temps, ils vont se faire déposséder des droits du film par des margoulins, on en parle. Donc, voilà, c'est en même temps triste et... Et une histoire très 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 drôle. Et puis après, le film sort dans plusieurs pays, notamment en Belgique où ça cartonne. En France, le film fait, je crois, dans mon souvenir, 1,5 million. Enfin, beaucoup de films maintenant aimeraient faire ça. Et comme tu disais, moi je me rappelle qu'avec tous mes potes, on connaissait les dialogues par cœur, quoi. Et c'est sur grand écran. Alors, formellement, ce que tu dis est juste, quoi. C'est vraiment incroyablement réalisé. Donc Rémi Bellevaux est vraiment un réalisateur né. Et puis c'est l'explosion du talent insolent de Poulvord qui est juste. C'est la révélation d'un talent fou, quoi. Et puis on s'est pas trompé. Il a continué. Il est devenu ce qu'il est, un très très grand acteur.
Oui. Je me souviens de l'avoir vu dans Monsieur Manhattan, comme ça, de prendre dans la gueule en chef scout. Et c'était hallucinant, quoi. Tu retrouvais Gottlieb, en fait. Tu retrouvais la force de l'écho des savanes, la même force de transgression à Canal+, avec un mec qui... Il n'y a pas d'allusion sexuelle, ni rien du tout. C'était juste le mec qui était là, et la façon dont il parlait, la façon dont il faisait vibrer le son, quoi, de sa voix, et puis deux, trois éléments de décor, des vêtements, mais très cheap, quoi. Punk à mort.
Ah oui, non, c'est... Oui. Bah, punk, ça me paraît pas mal. Pour résumer, il y a dans le papier un journaliste, cinéaste, documentariste qui s'appelle Yves Montmeilleur, qui nous raconte que, l'histoire du film, ça lui fait penser au mouvement punk, quoi. Et donc c'est vraiment des mecs qui n'ont rien, qui ont pas de budget, qui ont juste des idées, qui ont envie d'y aller. Donc c'est l'idée punk, c'est do it yourself. Ils y vont. Ils font ce truc, qui est un objet vraiment, on dit souvent ovni, mais là c'est vraiment un ovni qui est mal peigné, qui est assez destroy. Ils le donnent, et puis après, un petit peu de gloire, comme les Pistols, et puis après, le groupe qui explose, et jamais ils ont refait un truc comme ça. Benoît, lui, il a continué à mettre son grain de folie dans tous les films où il est, mais ce truc, c'est arrivé près de chez vous, c'est quand même très atypique, c'est vraiment... Moi, je pense que si vous n'avez pas vu ce film, il faut vraiment jeter un petit coup d'œil.
Il y a un suicide... excuse-moi, je te laisse parler après. Oui. Il y a un suicide à la fin.
L'histoire se termine mal parce que, en fait, à cause des histoires de droit, le metteur en scène, il s'appelle Rémi Bellevaux, il estime que, comme Benoît et André, qui sont respectivement l'acteur et puis le caméraman du film, ont tous travaillé sur les dialogues, le scénario, que c'est une œuvre commune, sur le carton du film, au générique, il a écrit un film, deux et les trois noms. Naturellement, avec le succès et l'argent, et puis aussi les galères, parce qu'on leur a piqué des droits, etc., le groupe va un peu imploser, quoi. Les amis vont un peu se séparer, prendre des voies différentes. Et quelques années plus tard, Rémi se suicide, qui a jamais réussi. Tous les producteurs de Paris voulaient lui faire faire C'est arrivé près de chez vous 2, et lui, il voulait faire un Lucky Luke, après un film de SF à gros budget. On lui a jamais donné sa chance, donc il est devenu un technicien, un réalisateur de pub qui était hyper coté. Il faisait des très grandes pubs, mais il a jamais pu faire son grand œuvre. Et en 2000, je crois que c'est en 2006, il est retrouvé mort.
Vas-y Cécile, c'est fini là, mais tu as une seconde.
Ok, alors une seconde, bah déjà je vais m'empresser d'aller lire ton article parce qu'il a l'air vraiment fabuleux. Non, moi je me pose toujours cette question de la conscience à ce moment-là, et peut-être que tu vas me spoiler un peu ton article, mais je me demandais si donc forcément le réalisateur, le metteur en scène, ils sont dans leur élément, donc ils font quelque chose de top, et peut-être qu'ils s'en rendent pas compte, mais ils ont les clés pour ça. Benoît, c'est la première fois qu'il joue, est-ce que lui il avait conscience déjà de son talent, mais aussi du rôle qu'il jouer, parce que c'est un rôle méga trash quand même.
Le rôle méga trash, je suis sûr qu'il sait. Je pense que personne n'a conscience que ce film ira à Cannes, que ce film sortira et que ce film, on en parlera, je sais pas, 30 ans plus tard. Non, aucune conscience de ça. C'est ça aussi la beauté du truc. Mmh. Je pense pas que les Pistols, quand ils font Nevermind, ils pensent que ce disque va marquer l'histoire du rock comme il l'a marqué.
Oui, bien sûr.
Merci à vous, c'était formidable. Écoutez, revenez quand vous voulez. Nous étions sur Allegre FM 93.1 et nous passons l'antenne à Cause Commune. Je crie.